France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire mouvementée de Metallica. Plus de 40 ans de carrière, 125 millions d'albums vendus, des milliers de concerts à travers le monde. Les chiffres sont impressionnants, l'histoire de cette ascension l'est tout autant. Avant de devenir l'un des groupes, si ce n'est le groupe le plus important de l'histoire du heavy metal, Metallica a dû tout affronter. Mais aussi s'affranchir de son milieu, de sa famille, des conventions, et tout donner, tout, quitte à perdre beaucoup. L'histoire de ce groupe, c'est aussi l'histoire de tout un mouvement musical, underground et fier de nager à contre-courant, jusqu'à ce que la réalité le rattrape. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album, un événement musical en cette année 2023, retour sur un parcours hors norme, plein de bruit et de fureur. Notre invité, Olivier Badin, journaliste musical, spécialiste du heavy metal. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Olivier Badin, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Il est 6h du matin, en cette froide matinée du 27 septembre 1986, quelque part sur une route verglacée dans le sud de la Suède. Le seul véhicule à rouler est un bus de tournée. À son bord, les quatre musiciens de Metallica et leur équipe technique. Metallica, c'est le plus féroce jeune loup de la scène métal, alors en pleine tournée européenne. En 3 ans et 3 albums, il s'est déjà hissé sur les plus hautes marches du genre. Son ascension paraît alors irrésistible. Mais le bus qui les transporte dévie soudainement de sa trajectoire. Et les avis divergent sur les raisons du drame. Pour certains, une plaque de verglas fait perdre le contrôle au conducteur. Pour d'autres, il s'est endormi au volant.
Tard dans la nuit, entre 5h et 6h du matin, j'ai entendu le bus déraper. J'ai ressenti les vibrations, puis ce mouvement. Pendant un temps, j'ai cru que nous étions en train de tomber d'une falaise.
Le chauffeur a voulu corriger la trajectoire, mais il en a trop fait. À un moment, l'arrière du bus a commencé à partir dans l'autre sens et a commencé à faire chonk, chonk, chonk.
Il y a eu le son strident des freins et cette impression d'être ballotté dans tous les sens comme des vêtements dans un sèche-linge.
J'ai été réveillé au moment où je me suis retrouvé avec plein de café renversé sur moi. C'est là que je me suis rendu compte que le bus était couché sur le côté.
Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce bus va exploser?
J'ai sauté hors du bus et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je crois que j'ai fait 100 mètres en quelques secondes.
J'étais là perdu en caleçon alors qu'il faisait moins 10 degrés.
J'ai alors commencé à entendre tout le monde en train de hurler, tout le monde sauf Cliff. Et là je me suis dit, oh là, quelque chose ne va pas.
Là je vois le chauffeur de bus complètement paniqué et perdu.
C'est à ce moment-là que j'ai tourné les yeux et que je me suis rendu compte que les jambes de Cliff dépassaient d'en dessous du bus.
En se retournant, le bus éjecte de sa couchette le bassiste du groupe Cliff Burton avant de s'écraser sur lui, le tuant sur le coup. Il avait 24 ans. Au milieu des débris, surpris dans son sommeil et quasiment dans son simple appareil, leur chanteur James Hetfield erre, hébété en hurlant son nom. À ses côtés, leur guitariste Kirk Hammett ne dit pas mot, choqué, en état de sidération. Plus tôt dans la soirée, il a échangé sa couchette avec Cliff après avoir perdu aux cartes. En un éclair, les trois jeunes musiciens perdent plus qu'un des leurs. Ils perdent leur frère. Un frère dont le fantôme ne cesse de les hanter depuis, à la manière d'un Syd Barrett pour le Floyd. Pourtant, 6 semaines plus tard, le groupe est de retour sur scène à Los Angeles avec son remplaçant. The Show Must Go On. Pas le temps de faire son deuil, il y a un trône à conquérir. Sauf que ce ne sera pas le seul drame que le groupe devra affronter. Vous le savez forcément si vous êtes fan de rock. Tous les grands groupes fonctionnent sur le même diptyque. D'un côté l'artiste, de l'autre le businessman. John Lennon et Paul McCartney pour les Beatles, à tout seigneur tout honneur. Keith Richards et Mick Jagger pour les Rolling Stones. Robert Plant et Jimmy Page pour Led Zeppelin. Tout comme eux, Metallica n'échappe pas à la règle. À sa tête, on retrouve deux fortes têtes. L'exubérant et grande gueule James Hetfield et le plus réfléchi, mais aussi le plus opportuniste, Lars Ulrich. Deux hommes que rien ne prédisposait à se rencontrer, excepté la musique. Décembre 1963. Le lendemain de Noël, Lone Ulrich donne naissance à son premier enfant, Lars, à Gentofte, à une dizaine de kilomètres au nord de Copenhague. Il sera fils unique et grandira dans une famille marquée par le tennis. Son père et son grand-père avant lui étaient joueurs professionnels. Alors tout naturellement, c'est la carrière à laquelle le jeune Lars, très entouré, se prédestine. Mais le père, Torben, a plusieurs cordes à son arc. Il ne se contente pas de disputer les tournois du Grand Chelem et de faire partie de l'équipe du Danemark en Coupe Davis. Non, il est aussi un mélomane averti. Fou de jazz, il profite de sa qualification à Roland-Garros pour jouer de la clarinette, notamment dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés. Il écrit également dans les rubriques musicales de la presse danoise. Le petit Lars grandit donc dans une famille à la fois sportive et artistique. Mais un événement fait tout basculer. Le 9 décembre 1973, Torben reçoit des places pour un concert à Copenhague. Il se trouve qu'un ami se désiste. À la place, il emmène son fils, pas encore 10 ans. Il l'emmène voir un groupe immense, Deep Purple. C'est ainsi que le métal entre dans sa vie. Il n'en sortira plus. Officiellement, Lars Ulrich compte toujours percer dans le tennis. À l'automne 1980, toute la famille émigre en Californie pour qu'il intègre une pouponnière de champions. Hélas, une fois sur place, il s'aperçoit qu'il n'a pas le niveau requis pour faire carrière aux États-Unis. Alors, rien ne le détourne plus de son objectif, se consacrer à la batterie, monter un groupe de heavy metal et suivre l'exemple de ses aînés d'Iron Maiden.
Iron Maiden s'inscrit dans le sillage de Led Zeppelin et Black Sabbath, inventeurs du heavy metal au début des années 70. Le groupe commence sa carrière à Londres en 76, en pleine explosion du mouvement punk. Face à la déferlante des épingles à nourrice et des coupes en pétard, il brandit tous les stéréotypes du hard rock comme un étendard. Les solos de guitare au kilomètre et les crinières flamboyantes.
On détestait les punks parce qu'ils nous piquaient tout le boulot. Au bout d'un an, ils décrochaient tous les concerts. C'était vraiment devenu difficile de trouver des salles à l'époque. Et puis les propriétaires des pubs ont réalisé qu'on pouvait ramener beaucoup de monde. On commençait à avoir pas mal de fans à ce moment-là. Et ils ont commencé à nous respecter.
Vendez plus de bière.
Ouais, enfin, ce qui les intéressait, c'était seulement de vendre plus de bière. Ils se foutaient du genre de musique qu'on faisait.
Été 81, Lars Ulrich n'a pas encore 18 ans. Il passe l'été en Angleterre. Pour faire du tourisme? Non. Pour acheter un maximum de disques et assister à un maximum de concerts, dont plusieurs de Diamond Head. Un voyage déterminant dans le pays du rock, de la pop et du metal. Car de l'autre côté de la Manche, dans ce pays tellement inspiré, une petite révolution musicale est en marche. La New Wave of British Heavy Metal, la nouvelle vague du metal britannique. C'est la nouvelle génération inspirée par ses grands frères Black Sabbath et Judas Priest. Mais leur musique est plus brute, plus nerveuse. Et tant pis si le niveau technique n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qui compte, c'est l'imagerie et surtout l'énergie. Et puis le punk est passé par là, anglais lui aussi. Les groupes se produisent avec les moyens du bord. Iron Maiden, Def Leppard, Saxon et donc Diamond Head, autant de prétendants à la gloire qui inspirent le jeune batteur. Alors c'est décidé, il va fonder son groupe. De retour à Los Angeles, il publie une petite annonce dans The Recycler pour recruter des musiciens. Un jeune guitariste du nom de James Hetfield accompagne l'un des postulants à cette audition. L'histoire est en marche. James Hetfield est né la même année que Lars Ulrich en 1963. Mais c'est leur seul point commun, à part la musique bien sûr. Le milieu social de Hetfield est bien plus modeste que celui d'Ulrich. En 76, alors qu'il a 13 ans, son père quitte le domicile familial. Le divorce traumatise l'adolescent. Sa mère, Cynthia, est victime d'un cancer. À cause de ses croyances, elle refuse de se soigner. Son fils, lui, est condamné à la regarder mourir à petit feu, impuissant. Sa disparition et le fanatisme religieux qui l'entoure serviront plus tard de source d'inspiration à certains des textes les plus noirs de James Hetfield. La séparation de ses parents l'entraîne vers une musique plus radicale que celle des groupes comme Aerosmith, qui le fascinait jusqu'alors. Lui privilégie les sonorités plus dures. À 14 ans, il porte les cheveux longs et achète sa première guitare. Lorsqu'il répond à l'annonce d'Ulrich, il faut faire vite. Les groupes de la New Wave of British Heavy Metal lui ont appris qu'il faut savoir se vendre tout seul. Et il a donc déjà négocié une place sur une future compilation réunissant des jeunes groupes de Los Angeles intitulée Metal Massacre. Si Ulrich n'a pas encore de vrai groupe, il en connaît déjà le nom fourni par l'un de ses amis, Ron Quintana. Quintana projette alors de publier son propre fanzine consacré au métal. Et il hésite entre deux noms, Metal Mania ou Metallica. Ulrich tranche pour Metal Mania et garde le nom Metallica pour son futur groupe. Hetfield embarque alors dans l'aventure un ami d'enfance, le bassiste Ron McGovney, et à la guitare solo, un certain Dave Mustaine. Le 14 mars 1982, Metallica donne son tout premier concert au Radio City d'Anaheim en Californie, le groupe aidé. Le mois suivant, Hetfield et Ulrich enregistrent seuls, en un après-midi, avec l'aide tout de même d'un autre guitariste, Lloyd Grant, le morceau « Hit the Lights » pour la compilation « Metal Massacre ». Le disque sort à l'été et le titre de Metallica est le tout dernier de l'album. Pire, le nom du groupe est écorché avec deux T. Mais peu importe, le nom est lancé.
L'une des choses qui définit le thrash metal dans les années 80, c'est son sérieux et son austérité même. Le thrash est très influencé par le punk, pas au niveau musical mais en termes d'attitude. Le punk est né d'un sentiment de frustration et a émergé à une époque où la société occidentale traversait une grande époque de doute sur la route à suivre et un manque de confiance en elle.
Le thrash a commencé à une époque où Margaret Thatcher et Ronald Reagan était au pouvoir. La société était alors très conservatrice et restrictive. Donc, si tu étais alors un adolescent, et plus particulièrement un homme, Burke, tu ne voulais vraiment pas vivre dans un monde où ces gens étaient là aux commandes. Pire, il y avait des chances que tu te sentes obligé de te perdre pour ne pas perdre ta place. Et de ce sentiment d'agression est née une envie de jouer plus fort et plus vite.
Metallica ne le sait pas encore, mais avec Hit the Lights, il vient de poser les bases d'un nouveau style musical, le thrash metal. Thrash, qui vient du verbe to thrash, en anglais, grosso modo, rouer de coups. L'image est parlante. Le thrash, c'est l'étape suivante du heavy metal et de son évolution. Plus rapide, plus complexe, plus méchant, et avec une attitude très punk, il est le mouvement musical sur le point de dominer la scène metal underground, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe. Le climat est pourtant plus propice pour des groupes de hard FM comme Bon Jovi, Poison ou Motley Crue, avec leur emballage pop et leurs ballades. Ce qui ne fait que nourrir la colère des musiciens trash. L'horreur de la guerre, la peur de l'holocauste nucléaire de plus en plus tangible dans cette période de guerre froide, l'addiction, les brutalités policières, autant de thèmes qui tourmentent tout un pan de la jeunesse et qui sont traités par Metallica. Sur scène, le jadis grand timide James Hetfield sort de sa coquille introvertie. Il campe un personnage charismatique, une cartouchière en guise de ceinture. Ce qui n'est pas pour déplaire à Dave Mustaine, le vrai bad boy du groupe. Issu d'une famille dysfonctionnelle, fugueur à l'âge de 15 ans et dealer occasionnel, ce dernier multiplie les provocations sur scène et hors scène, conférant au groupe une aura vénéneuse. La dernière pièce du puzzle, c'est Cliff Burton. Malgré son look de hippie avec ses pantalons pattes d'éléphant et sa fine moustache, ce jeune homme de 20 ans est un virtuose de la basse. Lars Ulrich et Hetfield le veulent tellement dans le groupe qu'ils acceptent cette seule condition, la sienne, se relocaliser à San Francisco, d'où il est originaire. Banco.
Bonjour, c'est Donna Davis et je suis aujourd'hui avec Metallica, l'un des jeunes groupes les plus excitants de la scène de Los Angeles. Depuis combien de temps le groupe existe-t-il sous le nom de Metallica ?
Depuis que nous avons commencé.
C'est-à-dire quoi, octobre 81 ?
Ouais.
D'accord. Quels sont vos artistes préférés, vos influences principales ?
Oh, plein de choses. Je ne sais même pas par où commencer.
Hilar, Dave Mustaine termine cette interview pour une télévision locale, la première réalisée par le groupe, en tendant ses deux majeurs à la caméra. Si son côté volcanique a du succès sur scène, en dehors des concerts, ces excès deviennent un problème pour le groupe. Mustaine boit plus que de raison, et son ivresse le rend agressif, violent, incontrôlable. Un syndrome qu'ont connu Ray Manzarek et Rube Krueger avec leur charismatique acolyte Jim Morrison au sein du groupe Les Doors. En avril 83, après une tournée cauchemardesque pour laquelle le groupe traverse tous les États-Unis en van, les trois autres membres décident de se séparer de lui. Une fois parvenus sur la côte Est, ils achètent deux tickets de bus, l'un pour le retour en Californie de Mustaine et un autre pour Kirk Hammett, guitariste d'Exodus, un autre groupe de thrash de la Bay Area, cette région entre San Francisco et Oakland, qui sera bientôt reconnue comme le berceau du thrash metal. Le temps presse. Le groupe est attendu en studio le mois suivant, qui marquera la date de sortie de son premier album, déjà prévu pour le milieu de l'été. Et son titre donne le ton. Après avoir hésité avec Metal Up Your Ass, Metallica basse son Kill 'Em All, tuez-les tous, rien que ça. Sur la pochette, le nom du groupe s'affiche en lettres acérées, un marteau repose au sol à côté d'une mare de sang. Sur 10 morceaux, 4 sont co-signés Dave Mustaine. Une nouvelle version de Hit the Lights ouvre le bal, suivie par la chanson The Four Horsemen. Au-delà de l'hommage aux quatre cavaliers de l'Apocalypse du Nouveau Testament, le titre sonne comme une prophétie. Et les quatre musiciens s'apprêtent à fondre sur le monde. Le thrash metal est né et son roi s'appelle Metallica.
Toujours du hard rock, il y a des nouveaux groupes qui surgissent. Dès qu'il y en a un qui meurt, il y a à peu près l'équivalent qui surgit. C'est-à-dire qu'on a vu Alice Cooper. Quand Alice Cooper est mort, il y a eu Kiss. Quand Kiss est mort, il y a eu Van Halen. Et maintenant que Van Halen est en morceaux, on ne sait pas trop, il y a Mötley Crüe. C'est bizarre, si on regarde la ligne, c'est toujours des groupes de quatre. C'est toujours des groupes où il y a des gens qui sont un petit peu maquillés outrageusement sur scène, qui ont des fringues un petit peu voyantes, qui ont une certaine façon de jouer. Et alors si on prend les, il y a toujours eu un Steppenwolf, il y a toujours eu, bon, mais alors les noms changent, ils s'appellent Metallica ou Motorhead, mais je veux dire, il y a une perpétuation du truc, il y aura toujours des jeunes pour qui ça sera la seule musique, et c'est vrai que c'est peut-être là que le rock'n'roll, dans ce qu'il avait de violent, de outré, de ridicule, même des fois, quand on voit certaines photos de Elvis Presley, il y avait du ridicule là-dedans quand même.
Le métal n'a pas bonne presse. Il est souvent dénigré par la critique, comme ici dans la bouche de Philippe Manœuvre. Mais de cette mise à l'index, Metallica fait une force. Une partie de son succès vient justement de son côté anti-système. Ulrich Hetfield emménage ensemble dans une maison à El Cerrito, à quelques kilomètres de San Francisco. Le lieu, connu sous le nom de Metallic Mansion, le Metallic Manoir, devient rapidement réputé pour ses bacchanales. Mais dans le garage, le duo bricole aussi une salle de répétition et un mini-studio afin de pouvoir créer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les postures sont trouvées. Sur les photos de l'époque, James Hetfield arbore systématiquement un sourire grimaçant. Cliff Burton lui incarne la bohème un peu destroy. Depuis 1983, avant chaque concert, le groupe dramatise son entrée en scène avec les notes d'Ennio Morricone sur l'un des thèmes musicaux du western de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, qui résonne comme un avertissement. Il va y avoir du grabuge. Metallica vend une musique qui mitraille, sans concession. D'ailleurs, rien n'arrête le groupe. Même lorsque Hetfield, grand amateur de skateboard, se casse le poignet, Metallica continue de donner des concerts. Un an seulement après Kill Em All sort Ride the Lightning. Puis en mars 86, c'est au tour de Masters of Puppets, pour certains l'un des tout meilleurs albums de métal jamais enregistrés. Un sommet artistique même. Au-delà des thèmes habituels, pour la première fois avec le titre Les Pas Messieurs, le Messie lépreux, James Hetfield ose s'attaquer aux dérives sectaires, à l'image de celle qui a coûté la vie à sa mère. Au-delà de cette réussite artistique, il y a aussi un refus catégorique de céder au moindre compromis. Alors que MTV règne en maître absolu, le groupe refuse de sortir un clip ou d'être sponsorisé par qui que ce soit. Proche de ses fans, Metallica se moque du Star System et fait preuve d'autodérision ou de provocation potache. En réponse aux réactionnaires de tout craint, le groupe fait apposer un autocollant provocateur sur le premier pressage du disque. Le texte est le suivant. Le seul titre que vous ne voudrez sûrement pas écouter est Damage Inc, car il contient de nombreuses fois le mot commençant par la lettre fuck. Sinon, ce disque ne contient aucun mot tel que merde, baiser, pisse, chatte, enculé ou suceur de queue. Non, nulle part. Un pied de nez qui n'empêche pas le tout d'être un succès. Même la France tombe sous le charme, c'est dire. Masters of Puppets culmine à la 6e place des charts sans aucune couverture médiatique ni suivi radio. Le groupe semble indestructible. Trop même. La mort tragique de Cliff Burton marque la fin de l'innocence pour Metallica. 3 semaines seulement après les funérailles de leur ami, ils choisissent pour le remplacer Jason Newsted de Flotsam and Jetsam. Des années plus tard, le groupe concède à demi-mot avoir préféré se réfugier dans le travail plutôt que de prendre le temps de faire son deuil. Mais ce déni, ils le font payer au prix fort à Newsted. Dès son arrivée, en dépit de tous ses efforts pour se faire accepter des autres membres, il devient leur tête de turc. Mais pas le temps de s'apitoyer. Il y a un nouvel album à écrire, une nouvelle tournée à honorer, de nouveaux fans à gagner. Alors, Metallica repart au combat. Le 22 janvier 89, le public découvre le tout premier clip de l'histoire du groupe. Un compromis ? Pas tout à fait. Cette mini-concession, Metallica l'a faite à sa façon avec une chanson inspirée par le livre « Johnny s'en va en guerre » et son adaptation au cinéma. Un violent pamphlet anti-guerre, écrit par Dalton Trumbo, qui fait partie des 10 d'Hollywood. Ce groupe de professionnels du cinéma blacklisté par le sénateur McCarthy lors de sa fameuse chasse aux sorcières anticommunistes en 1947. Le livre raconte l'histoire d'un jeune soldat idéaliste de la Première Guerre mondiale. Après avoir sauté sur une mine, il est amputé de ses 4 membres et perd la vue, l'ouïe et l'odorat. En prison dans son propre corps, il demande à mourir en vain. Bref, condamné à vivre. Sorti 4 mois avant, l'album dont cette chanson est tirée, And Justice for All, est un nouveau succès critique et commercial. Mais la machine semble un peu grippée. Les morceaux sont trop longs, trop alambiqués aussi. La basse est inaudible, quasiment effacée lors du mixage, à la demande de Lars Ulrich. Comme si le batteur refusait au successeur de Cliff Burton le droit d'exister. Le groupe se trouve clairement à un tournant, d'autant que l'époque a changé. Après avoir atteint son apogée commercial, le thrash s'essouffle. Et son roi va le pousser un peu plus dans la tombe.
Vous savez quel groupe joue ce soir ?
Metallica.
Yeah. Vous nous connaissez ?
Non.
Vous n'avez jamais écouté ?
Non.
Et ça vous intéresserait ?
Non.
Malgré quelques bastions décidément imprenables, Metallica conquiert mois après mois des fans de plus en plus nombreux et qui affichent leur enthousiasme comme une seconde peau.
Regardez-nous bien, c'est nous les futurs Metallica.
C'est des gars qui font pas de concessions, ils ne s'occupent pas de ce que pensent les autres.
Ces chansons parlent de ce qu'on vit.
Quand on écoute leur musique, on se sent tellement mieux.
30 millions d'exemplaires vendus. Plus de 10 années de présence dans les 200 meilleures ventes aux États-Unis. Une tournée interminable. Le Black Album, l'album noir, en référence à sa pochette couleur charbon, où n'a fleur que leur logo et le dessin d'un serpent à sonnette, est un succès planétaire. Avec son cinquième opus, Metallica franchit un fossé a priori infranchissable, celui qui séparait encore le métal du grand public. Et cet exploit ne doit rien au hasard. Le groupe a passé 9 longs mois en studio avec le bien nommé Bob Rock, plus habitué de productions sucrées comme Motley Crue, The Cult et même Bon Jovi, les ennemis d'hier. 9 mois donc, entre Los Angeles et Vancouver, à enregistrer des dizaines et des dizaines de prises du même morceau, jusqu'à l'épuisement. Des prises ensuite décortiquées et réassemblées quasiment note par note pour obtenir la meilleure performance. Bref, un travail de titan. Paradoxalement mise au service d'une musique simplifiée, ralentie, mais aussi désormais beaucoup plus accessible. Et évidemment, les puristes hurlent à la trahison, un peu comme lorsque Bob Dylan a électrifié le son de sa guitare folk. Metallica a osé l'impensable, écrire une ballade. Nothing Else Matters les propulse sur les ondes FM et le succès est planétaire. Le 28 septembre 1991 à Moscou, le groupe rassemble 500 000 de spectateurs pour un concert gratuit offert par le gouvernement Gorbatchev à la population en remerciement d'avoir fait échouer la tentative de putsch du mois précédent. Puis le groupe passe l'été 92 à faire la tournée des stades avec Guns N' Roses. La première partie est offerte à Nirvana, mais refus catégorique de Kurt Cobain. Pour l'auteur de Smells Like Teen Spirit, Axl Rose, le chanteur des Guns, représente tout ce qu'il exècre. Une rockstar arrogante, hors sol, capricieuse.
There was an incident with the pyrotechnics. Unfortunately, James is on his way to the hospital right now, and we're very sorry, but we can't continue the concert for you guys tonight. But we promise you one thing for Metallica, and you know that we always.
Le 8 août à Montréal, la réalité lui donne hélas raison. Alors que Metallica entame devant 57 000 spectateurs déchaînés le morceau Fade to Black, James Hetfield est brûlé aux mains et au bras gauche par des effets pyrotechniques. Fin prématurée du concert de Metallica. Leur chanteur est conduit aux urgences. Au lieu de calmer les esprits, Axl Rose jette de l'huile sur le feu. Guns N' Roses fait attendre le public plus de 2 heures avant d'apparaître en scène. Au bout d'un peu moins de 3 quarts d'heure, peu en voix et à bout de nerfs, le chanteur jette son micro et quitte la scène. Déjà chauffé à blanc, le public explose. Et c'est l'émeute. La salle est ravagée et plusieurs dizaines de personnes sont arrêtées. Mais même ça ne freine pas Metallica. 2 jours plus tard, le groupe est de retour sur scène à Phoenix. Point d'orgue de 3 années vécues pied au plancher, la tête d'affiche du festival Woodstock en août 94 devant plus de 350 000 personnes. Metallica est alors l'un des plus grands groupes du monde, tous styles confondus. Et il va se perdre.
Je peux facilement comprendre ce gamin avec une photo de nous datant de 1991, du Black Album, et se disant « ça, c'est mon Metallica ». Oui, je le comprends lorsque 5 ans plus tard, il voit ce nouvel album, avec des photos des mêmes musiciens, mais cette fois-ci avec des costumes de proxénètes cubains, avec des verres de martini, des cigares et des cheveux courts. Mais c'est qui, ça? Je sais que c'est Metallica, mais je ne reconnais pas ces gens.
À la fin des années 90, Metallica est presque devenu victime de son succès. Jadis en marge et fier de l'être, le groupe fait désormais partie de l'aristocratie du rock, avec tous les travers que cela suppose pour les fans. En 1995 et 1996, Metallica sort coup sur coup 2 très longs albums, Load et Reload, bien plus sages, trop sages même, et un peu boudé par les fans qui ne reconnaissent plus dans le nouveau look des idoles, leurs idoles. Cheveux courts, androgyne affichée même pour Kirk Hammett, photos stylisées où les membres de groupe posent avec des cigares en sirotant des cocktails, ça ne passe pas. aux yeux des fans de la première heure, Metallica sans bourgeoise. C'est fou tout de même à quel point les fans d'une musique plutôt révolutionnaire, le rock, ont des réflexes conservateurs. Beaucoup de groupes ont connu cela. En tout cas, certains musiciens de Metallica se marient. Lars Ulrich investit dans l'art contemporain. James Hetfield collectionne les voitures. Comme si la musique désormais était reléguée au second plan. Et de fait, l'inspiration se tarit. La fin de la décennie apporte d'abord un album de reprise, puis une relecture à un brin pompeuse de leur répertoire, accompagnée par un orchestre symphonique. Certes, Metallica remplit toujours les stades, mais clairement, la mécanique est enrayée. Le groupe paraît coupé de ses racines. Autrement dit, la crise couve, et elle explose au moment où la musique entame sa nouvelle mutation.
La technologie de Napster permet aux particuliers d'échanger gratuitement de la musique sur Internet. Les fichiers de musique sont mis à disposition. Le site aurait ainsi conquis plus de 25 millions d'utilisateurs dans le monde en quelques mois. Les habitués du site Napster ont montré à Daniel Wolfram et Claude Barnier comment ils opéraient.
Ils ne tiennent pas à être connus, leur visage restera donc dissimulé. Leur passion, la musique qu'ils copient allègrement sur Internet grâce à un site gratuit, Napster.
Au niveau du son, alors c'est...
le son est très bon. C'est le son studio, comme tu peux l'écouter sur ta chaîne. Si tu veux, je te le grave.
Et la pochette, c'est possible d'avoir le...
On peut récupérer la pochette sur Internet aussi. Il y a des sites où ils mettent toutes les pochettes. Même si c'est pas très légal, mais on peut la récupérer sans problème. D'accord. Si tu veux, avant ce soir, tu retournes chez toi, t'auras l'album de Radiohead avec la pochette.
Réaction brutale des maisons de disques, procès contre Napster, des artistes montent en ligne pour défendre leurs droits d'auteur, leur chef de file en Amérique, le groupe Metallica.
Pour nous, c'est la même chose que de rentrer dans un magasin de disques, de ramasser un CD de Metallica et de partir en courant.
À l'aube du nouveau millénaire, la façon de consommer la musique change radicalement. Internet fait son entrée dans notre vie quotidienne, mais les choses sont encore floues, désorganisées. Les professionnels de la musique ne prennent encore pas conscience de l'ampleur du changement en marche. Mais les auditeurs, eux, surtout les jeunes au pouvoir d'achat pas très élevé, s'engouffrent tout de suite dans la brèche ouverte par ces nouveaux acteurs numériques. Napster est un service de partage de fichiers en pair à pair, spécialisé dans les échanges de fichiers musicaux. Le tout gratuitement. Et très vite, ce sont des milliards de chansons qui passent ainsi de main en main, sans qu'un seul centime ne soit versé aux artistes. Plus d'une centaine de titres de Metallica sont ainsi disponibles au téléchargement. Du vol pur et simple pour le groupe, qui porte plainte le 13 avril 2002. Lars Ulrich en particulier ne décolère pas et prend la tête du mouvement anti-Napster, allant jusqu'à témoigner devant la commission d'enquête au Sénat américain et devant les caméras. Les poursuites touchent leur but et le logiciel est retiré en 2001. Mais si le groupe gagne devant les tribunaux, il perd la bataille de l'opinion. Beaucoup de fans condamnent son attitude, y voyant une preuve supplémentaire de sa déconnexion et de son embourgeoisement. Même le dessin animé South Park s'en moque.
Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui là-bas, effondré sur son transat.
Mais pourquoi il pleure ?
Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requins en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir.
Le 17 janvier 2001, après 14 ans de bons et loyaux services, Jason Newsted quitte Metallica. Officiellement, son corps est trop fatigué pour les tournées incessantes. En vérité, le bassiste est surtout fatigué par le gigantisme étouffant du groupe, fatigué par les addictions des uns et des autres, fatigué par l'ascendant qu'a sur lui le duo Hetfield et Ulrich. Alors il jette l'éponge. Après la mort tragique de Burton en 86, c'est le deuxième musicien qui les abandonne. Le reste du groupe est sous le choc et s'enfonce un peu plus dans la crise. Victime du syndrome de la page blanche, le trio perd 6 mois à tenter de composer. Oui, il les perd, parce qu'il ne compose pas. Le 19 juillet, James Hetfield, menacé de divorce par sa femme s'il refuse de se soigner, entre en cure de désintoxication. Il coupe tout contact avec ses frères d'armes pendant 10 mois. Réduit à un duo, Metallica est alors exsangue, le tout sous l'objectif des caméras. Une équipe a été embauchée à l'origine pour réaliser un traditionnel making-of promotionnel qui débouche sur un documentaire, Some Kind of Monster, au titre français révélateur, dans l'intimité de la bête.
Jamais un documentaire rock n'était allé aussi loin.
Les musiciens ont tout laissé filmer, à commencer par les scènes d'enregistrement où rien ne va plus.
Tu peux m'expliquer ce que tu fais là ?
Mais rien du tout, c'est toi, t'es assis là avec ton attitude d'abruti.
Tu fais vraiment avancer les choses, toi, t'es très fort.
Désormais, Metallica ne fait plus la une de l'information pour ses ventres corps, mais pour ses frasques. J'aime cette fille, le chanteur, lui, entre en cure de désintoxication. Même les fans français ont cru perdre leur groupe culte.
Est-ce qu'il va revenir de cette fameuse cure ?
Il reviendra, mais dans quel état ? Alcool, drogue, égo surdimensionné, Metallica doit combattre ses vieux démons. Le groupe entame alors une thérapie de choc. Le psy leur coûte 40 000 dollars par mois. Et pour tout arranger, le chanteur pose ses conditions. Seulement 4 heures de travail par jour, il veut profiter de sa famille.
Ça me paraît clair. Moins on passera de temps à travailler, plus on sera productif.
Contre toute attente, en exposant ainsi ses fêlures et en ne cachant rien à ses fans, Metallica revient en grâce. Mieux. À son retour de cure, après un gros travail sur lui-même, James Hetfield admet publiquement ses erreurs. Oui, il avoue sa peur d'être abandonné depuis la mort de sa mère et son refus d'accepter que Jason ait la chance de remplacer son ami Cliff Burton. Fruit de plus de 2 ans de tâtonnement et de travail, l'album Save Anger sort finalement le 5 juin 2003. Oh, il ne peut être pas le plus réussi de leur discographie, mais le plus engagé depuis bien longtemps. Véritable catharsis à l'épreuve que le groupe vient de traverser. En dévoilant ses sentiments et en fendant l'armure machiste du musicien métal que le groupe avait pourtant contribué à construire, Metallica déconstruit le mythe pour mieux se réinventer. Et les choses sont désormais plus saines. Le remplaçant de Jason, l'ancien bassiste d'Ozzy Osbourne, Robert Trujillo, est accueilli d'égal à égal. Hors de question de reproduire les erreurs du passé. Ulrich et Hetfield enterrent même l'âge de guerre avec leur tout premier guitariste Dave Mustaine, qui a su rebondir avec son propre groupe Megadeth. Enfin, sur le plan artistique, Metallica renoue avec ses racines. Fini les tentatives d'expérimentation, fini les arrangements hasardeux. Non, retour au métal pur et dur. Le roi retrouve sa couronne pour ne plus la quitter. Après Kirk Hammett, en novembre dernier, James Hetfield et Lars Ulrich fêteront tous les deux d'ici la fin de l'année leurs 60 ans. Metallica lui a soufflé ses 42 bougies, toujours au sommet.
Thank you.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, l'histoire de Metallica dont nous allons parler avec notre invité Olivier Badin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste musical, spécialiste du heavy metal, on vous doit cette enquête, cette histoire. Est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'aujourd'hui, donc en 2023, Metallica est le plus grand groupe de metal en activité, et si oui, pourquoi ?
Oui, on peut dire ça, c'est clairement, c'est l'un des maîtres du genre. En gros, si vous êtes fan de metal, quel que soit votre âge d'ailleurs, votre chemin a forcément croisé celui de Metallica. Ça fait partie de ces piliers absolus qui en plus a une carrière de plus de 40 ans maintenant, ce qui mine de rien devient une rareté de nos jours. Encore plus maintenant où on a l'ancienne génération, la génération de groupes de heavy metal qui l'a précédé, comme Black Sabbath, qui nous a quitté, enfin qui a arrêté, cessé ses activités, Judas Priest, qui n'a pas encore arrêté, mais qui en est pas loin, CDC, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc il reste, finalement, Metallica reste espèce de groupe incontournable, et c'est surtout un groupe qui, dont maintenant la légende pèse tellement qu'il n'a plus besoin, il y a toujours des albums qui sortent, mais finalement il n'en a même plus besoin pour remplir des stades. À chaque fois que Metallica passe dans votre ville, c'est 50 000 personnes assurées.
Marque, presque.
Complètement, c'est une marque, c'est une sorte de totem qu'on se passe de génération en génération.
Est-ce qu'on peut dire que Metallica est au metal, ce que Bob Marley est au reggae, les Beatles à la pop, les Rolling Stones au rock issu du blues, ou d'autres groupes là, comme ça qui font vraiment référence. C'est la référence
bien
du
sûr.
Genre.
Okay. Si vous avez un petit neveu de 13 ans qui vous dit « j'ai envie de découvrir le metal », conseille-moi 5 disques. Il y aura forcément un album de Black Sabbath, forcément un album de CDC et forcément un album de Metallica.
Ah, et si on écoute du rock planant, il y a forcément un album du Floyd. Bien. Comment pourrait-on expliquer la dynamique particulière du groupe ? On l'a dit dans le récit, mais d'un point de vue plus musical, plus technique.
Alors, ce qui est assez étonnant avec Metallica, c'est finalement c'est un groupe américain, mais donc l'un de ses membres fondateurs et élément déterminant, Lars Ulrich, lui, est danois et son inspiration est européenne. Donc ça, c'est déjà très important. C'est-à-dire que c'est un groupe qui s'est nourri à plusieurs sources, qui a ensuite su créer son style, sa propre sauce, en quelque sorte. Mais donc, il y avait déjà d'entrée un côté assez universel dans son approche, dans sa musique. Ensuite, c'est un groupe qui s'est vraiment, à la base, construit. Maintenant, tout le monde, personne ne contestera l'importance d'un groupe comme Metallica, l'importance qu'il y a eu pour la musique. Mais dans les années 80, c'est un groupe qui s'est construit dans l'opposition. C'est-à-dire que l'une des marques de fabrique de Metallica dans les années 80, ce qui a fait son succès, ce qui a fait son lien avec les fans, c'est cette idée à l'époque de « nous, on est hors système. Nous, on ne passe pas à la radio, on ne passe pas à la télé. Oui, on fait des doigts d'honneur devant les caméras. Oui, on parle de choses dont on ne veut pas, dont les autres ne veulent pas parler. Oui, on joue trop vite. Oui, on boit trop de bière. Et vous savez quoi? Eh ben, nous, ça nous est égal de ce que vous pensez. » Donc, il y a cette espèce de, et finalement, à force de vouloir dire, on est en dehors, on est en dehors du système, ou on ne partient pas à vous, tout ça. On n'est pas comme ces rockstars. Eh ben, paradoxalement, Metallica est devenu lui-même un roi du rock et du metal, devenu une rockstar à part entière.
D'ailleurs, je vous disais en écoutant la première chanson passée pendant le récit, mais c'est du rock.
Ah, complètement.
C'est d'abord du rock.
Le point de départ, on l'a dit dans le récit, le point de départ, la première inspiration de Metallica, ce qui a poussé Lars Ulrich à faire de la musique, c'est Deep Purple. Encore une fois, ce sont des gens qui sont tous nés en 1962, 63, 64, donc qui ont grandi, qui étaient adolescents dans les années 70. Et on sait tous combien la musique qu'on écoute lorsqu'on est adolescent est déterminante dans nos goûts musicaux et la façon dont on la représente. Eux ont grandi dans la seconde moitié des années 70 et donc sont imprégnés de ce rock classique, de toutes ces références musicales. Et d'ailleurs, ils le ressortent régulièrement. Depuis quelques années, lorsque Metallica passe, il y a toujours un petit intermède sur scène entre Kirk Hammett, le guitariste soliste, et le bassiste qui s'amuse à reprendre tous les deux un ou deux bouts de morceaux connus du répertoire du pays dans lequel ils se trouvent à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'était drôle, la dernière fois qu'ils ont joué à Paris, ils se sont retrouvés à faire un bout d'une chanson de Trust, mais aussi à jouer un petit bout de Johnny Hallyday, de Ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, par exemple.
Led Zeppelin est-il une référence pour Metallica ? Est-ce qu'il y a un lien ou pas ?
Il n'y a pas de lien musical tout à fait, parce que Led Zeppelin était dans une forme de mysticisme, et puis surtout était dans une dynamique assez différente, donc très basée sur le blues, et avec Robert Plant, un chanteur haut perché, très sexué, bombé, qui bombait le torse, nu, sur scène. Lui, James Hetfield, a toujours dit qu'il avait été chanteur par défaut, qu'il n'aimait pas ça. D'ailleurs, James Hetfield était apparemment timide d'une manière maladive au tout début, n'osant pas adresser la parole. D'ailleurs, au tout début du groupe, Metallica a envisagé plusieurs fois que James Hetfield se contente de jouer de la guitare et de prendre un chanteur à part entière. Ils ont fait quelques offres concrètes qui se sont heureusement jamais concrétisées. Et donc James Hetfield s'est retrouvé un peu par défaut dans ce rôle de frontman. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est construit cette espèce de carapace de ultra macho, ultra costaud, faisant beaucoup de blagues et disant beaucoup de fois le mot fuck entre sur scène à ses fans. Mais on s'est rendu compte petit à petit d'ailleurs que c'était quelque chose, c'était un personnage qui s'était construit. Mais lui-même a dit après coup qu'il ne le voulait pas, ça. Qu'il n'était pas à l'aise avec la célébrité.
Qu'est-ce qui fait que le public de la musique rock, mais globale, hein, musique pop, la musique metal, est assez conservateur finalement? Metallica en a fait l'expérience, change un peu d'idiome musical et ça plaît pas. Quand Dylan a électrifié sa guitare, ça a été une espèce de scandale absolu.
Le public qui criait Judas, oui.
Et pourtant, c'est une musique qui se veut révolutionnaire, renverser la table, changer, et on a un public un peu conservateur.
Le paradoxe, c'est un des gros paradoxes du public métal. C'est-à-dire que pendant des années, le public métal, d'un côté, s'est plaint d'être ostracisé, comme ça, mis de côté, pointé du doigt, regardez ces méchants métalleux aux cheveux longs et qui boivent beaucoup de bière. Et en même temps, c'était un signe de ralliement entre eux. Il y avait une forme, malgré tout, de fierté de se dire « Ah, vous avez vu, hein, on ne plaît pas, hein, on est des bad boys. Ouais. » Et donc, le groupe aimait ça. Le groupe, enfin les fans de métal, pardon,
s'identifient à ça, à
s'identifient à cette démarche un petit peu rebelle. Et finalement, une fois qu'ils avaient, on avait l'impression, surtout dans les années 80, qu'on écoutait du métal, on faisait partie d'un groupe un peu privé, VIP, de gens se connaissant entre eux. Et je pense qu'une partie de ce public n'a pas aimé, a eu l'impression que ça lui a échappé.
C'est
à partir du moment où le métal est devenu grand public, s'est dit, mais attendez, avec le succès du Hellfest, ce genre de choses, d'un seul coup, ils ont vu arriver à leur concert des gens qui n'y connaissaient rien. On dit, mais qui tu es, toi? Moi, j'écoute du métal depuis toujours. Donc, il y a toujours ce petit fond conservateur qui est en train, malgré tout, doucement mais sûrement, de disparaître.
Est-ce qu'on peut dire que le succès de Metallica, c'est aussi d'avoir été au bon endroit, bon moment?
Ah oui, tout à fait. Metallica arrive donc les premières répétitions en 1981. Donc, c'est-à-dire que les grands noms du heavy metal et du hard rock sont soit dans le creux de la vague, soit ont rendu leur dernier souffle. Et surtout, c'est une nouvelle décennie avec, d'un côté, l'arrivée de ce hard rock, ce heavy metal qu'on appelait hard FM, avec tous ces groupes venus de Los Angeles, pleins de paillettes, avec un emballage assez pop. Et donc, une partie du public métal s'est complètement détournée en disant, mais c'est quoi cette musique de midinette? Nous, on veut quelque chose de dur. Et en plus, surtout, tout ça est arrivé à une époque où le ton politiquement s'est durci. L'arrivée du conservatisme aux États-Unis, la guerre froide, les années Reagan, la fin, on le savait pas encore, mais la fin qui allait venir de l'URSS. Donc cette ambiance, cette tension, et les fans de métal avaient besoin de retrouver toute cette dynamique-là dans une musique, et avaient besoin de chercher une musique plus violente, qui correspondait plus à leur époque, et Metallica est arrivé avec ce qu'on a donc appelé le thrash metal, cette variation plus rapide et plus agressive et plus pessimiste du heavy metal.
Mais dis-moi, c'est aussi l'apanage du punk, ça, à la même époque.
Oui, mais justement, tout à fait. Mais le punk était arrivé quelques années plus tôt.
Oui.
Aux États-Unis, c'est arrivé au début des années 80, avec des groupes comme les Circle Jerks ou Black Flag à Los Angeles, notamment.
Mais en Grande-Bretagne, dès les années 70.
Exactement.
Deuxième partie des années 70. D'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Mais il y avait quand même les punks qui avaient ce côté très accessible, très énervé. Mais par contre, les fans de métal avaient besoin, malgré tout, je pense, de retrouver une certaine, je ne veux pas dire une virtuosité, mais à une certaine ambition musicale.
C'est-à-dire avec les Clash, notamment.
Oui, voilà.
Ils sont arrivés à une musique très sophistiquée, très, très soignée.
Et très mélangée aussi.
Et très mélangée. Ah oui.
Donc les Clash se sont fait aussi accuser par les punks purs et durs, d'avoir dévié complètement de leur trajectoire initiale.
Sandinista, notamment.
Voilà, notamment. Alors que finalement, les Sex Pistols restent le panthéon absolu du punk, mais parce qu'ils n'ont sorti qu'un seul album. Ils n'ont pas eu le temps de se diversifier.
En quoi l'histoire personnelle des membres du groupe a-t-elle joué un rôle dans ce succès? Parce que c'est vrai que le succès des groupes tient aussi à leur personnalité qui les compose et qui sont charismatiques.
On a vraiment, à la tête de Metallica, on a deux personnalités très très fortes, très différentes. Vous avez d'un côté Lars Ulrich, qui est un peu le fils prodige, qui vient d'Europe, d'un milieu artistique et sportif, comme on l'a dit dans le test, qui a été poussé par ses parents, avec très tôt une volonté, un côté très business, très sachant, serrer les mains aux bonnes personnes, très attiré par le côté paillette du show business. Et de l'autre, vous avez James Hetfield, venu d'un milieu très modeste, très religieux, très fermé, où il ne pouvait pas, à cause de l'appartenance religieuse de ses parents, ne pouvait pas participer aux activités sportives en classe, n'avait pas le droit de voir le médecin, d'aller de suivre certains cours. Et donc finalement, les deux, on nous avait d'un côté Lars Ulrich qui cherche le succès absolu et qui va tout donner pour ça, et de l'autre, James Hetfield qui finalement cherche à tout prix à s'extirper de son carcan familial, de son concours familial, quitte à chercher à aller dans l'extrême, entre guillemets, et donc poursuivre une carrière de musicien de métal, ce qui à l'époque était la dernière chose à faire si on voulait gagner de l'argent et devenir célèbre.
Il y a un album qui est important, un Black Album. Souvent dans l'histoire des groupes, il y a un disque comme ça qui est à la fois de rupture et de bascule. On peut citer Dark Side of the Moon pour Floyd, Sgt. Pepper's pour les Beatles. À mon avis, c'est une erreur, c'est Revolver, mais peu importe. Est-ce que Black Album tient ce rôle-là? Est-ce qu'il y a un avant et après?
Ah, complètement. Moi-même, j'ai le souvenir, alors les moins de 30 ans n'ont jamais connu ça, et tant mieux, mais j'ai personnellement, j'étais cet été-là, la sortie 91 aux États-Unis, j'ai par exemple fait la queue pendant 2 heures devant un magasin de disques pour le jour de l'ouverture, pour être sûr d'acheter le disque, d'être parmi les premiers. Et je me souviens de débats passionnés au sein des quelques fans de métal que nous étions dans mon établissement à cette époque, entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et il y avait cette idée, ils avaient commis l'irréparable. Ils avaient fait une balade, ce qui était le truc absolu à ne pas faire.
Blasphème.
Blasphème absolu. Et en même temps, tout le monde écoutait cet album. Et quand on voit les chiffres qui donnent un peu le tournis, le vertige, quand on voit le côté... Black Album, ça fait partie, finalement, c'est là où Metallica, pour le meilleur et pour le pire, est entré complètement dans la sphère du domaine public. Les fans de métal, ils ont perdu l'exclusivité qu'ils avaient et tout le monde a écouté un jour. Même ma femme qui écoute pas du hard rock, elle connaît cet album. Donc, ça fait partie, et c'est encore un méga classique. Et surtout, on le voit à quel point il y en a avant un après, parce que c'est un album qui a changé la donne, non seulement pour Metallica, mais pour tout le métal aussi.
Comment se présente 2023 pour Metallica?
Écoutez, ça se présente très bien, on va dire. C'est-à-dire que le groupe, maintenant, quand il sort un album, de toute façon, c'est numéro 1, ça tombe à numéro 1 directement dans une quinzaine, vingtaine de pays, on va dire. Et le groupe en France remplit 2 stades de France, ce qui est quand même plutôt pas mal.
Ça va bien, oui.
Donc tout va bien. Donc c'est un groupe qui, quoi qu'il fasse, de toute façon, tout ce qui touche, c'est de l'or. Tout récemment a été annoncé, par exemple, que Metallica vient de racheter sa propre usine de pressage de vinyle.
Oui, donc ça va bien.
Comme ça, ça va très bien.
Bien. Olivier Badin, sous votre égide, nous avons parlé 2 fois à travers 2 podcasts différents du heavy metal. On en parlera une 3e fois. Quel sera le thème?
Cette fois-ci, nous allons parler d'événements qui se sont passés dans le nord de l'Europe, en Norvège et en Suède, en 1993 et 94. Là où, à une époque, à un moment où le métal est allé, on va dire, presque trop loin.
Bien. Rendez-vous est pris. Merci, Olivier Badin. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Metallica et le heavy metal. À la technique, il y avait Vincent Désir.